Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'association Utopia 56 porte plainte après la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche le 24 novembre dernier, une plainte notamment pour homicide involontaire. Bâtir une communauté européenne des énergies renouvelables en coopération avec le bassin méditerranéen, la demande du président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale à l'approche de la présidence française de l'Union européenne. Nous écouterons Olivier Betsch. Les représentants de 57 pays musulmans s'engagent à développer de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan. Ces pays ont convenu hier lors d'un sommet extraordinaire au Pakistan de travailler avec l'ONU pour débloquer des centaines de millions de dollars d'avoirs afghans. Plus d'un quart des bénéficiaires des aides d'urgence du Secours catholique souffrent d'une insécurité alimentaire grave, un constat de l'association dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Samuel Prieur, délégué départemental du Secours catholique Nord-Lille, sera l'un de nos invités. La réélection d'Elie Mazbounji à la tête de l'Association de la presse étrangère en France. Regarde dans votre journal sur les missions de cette association à l'approche de la présidentielle en France. Le drame remonte au 24 novembre dernier. La mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. L'association Utopia 56 porte plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours contre le préfet maritime de la Manche, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage et les gardes-côtes britanniques. L'association estime que les victimes qui tentaient de traverser la Manche ont trouvé la mort en dépit des appels adressés aux services de secours anglais et français. D'après la préfecture maritime de la Manche, un navire de pêche français a donné l'alerte le jour du drame après avoir vu plusieurs naufragés à la mer dans les eaux françaises, mais à proximité immédiate des eaux anglaises. Cette demande du président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale, le député Olivier Becht plaide pour la création d'une communauté européenne des énergies renouvelables en coopération avec le bassin méditerranéen. Il évoque un rapport gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique, le député Olivier Becht.
Le groupe Agir Ensemble adhère évidemment aux priorités telles qu'elles ont été définies par le président de la République. Nous souhaiterions en rajouter une si c'était possible. Nous pensons qu'il serait intéressant aujourd'hui de réfléchir à la création d'une communauté européenne des énergies renouvelables, comme nous l'avions fait d'ailleurs dans les années 1950 avec la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, ou de la communauté de l'énergie atomique. C'était à la base de la construction européenne. Et aujourd'hui, nous savons que si on veut lutter contre le réchauffement climatique, eh bien, on n'aura pas d'autre choix que de passer par ces énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles qui sont des énergies carbonées. Et donc, bâtir une communauté européenne des énergies renouvelables, on peut le faire bien sûr à l'échelle de l'Union européenne, mais on peut aussi le faire en coopération avec des pays de la Grande Europe, plus à l'Est. On peut également le faire avec le bassin méditerranéen. On sait que dans le Maghreb, il y a notamment la possibilité de construire de grandes fermes solaires et donc peut-être de construire des autoroutes de l'énergie à travers la Méditerranée pour faire en sorte que le soleil qui irrigue le Maghreb puisse demain alimenter sous forme d'énergie une partie de l'Europe. C'est un rapport gagnant-gagnant entre l'Europe et l'Afrique que nous souhaitons bâtir avec donc cette proposition qui s'inscrit, je pense, également dans les réflexions du président de la République autour d'un New Deal avec l'Afrique pour essayer de construire une nouvelle coopération économique énergétique avec l'Afrique.
Le député Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble à l'Assemblée nationale. Des affrontements ont eu lieu la nuit dernière à Kasserine en Tunisie, des heurts pour la troisième nuit consécutive entre des jeunes gens du quartier Ennour et les forces de l'ordre. La Tunisie a été dernièrement le théâtre de plusieurs mouvements de protestation dans la majorité des gouvernorats, des mouvements sur fond de revendications sociales liées essentiellement au développement et à l'emploi. Des manifestations hier au Soudan. La police a tiré des grenades lacrymogènes à Khartoum, une répression pour disperser les dizaines de milliers de manifestants descendus dans la rue pour s'opposer à l'armée au pouvoir depuis le coup d'état militaire du 25 octobre. Les représentants de 57 pays musulmans s'engagent à développer de l'aide humanitaire pour l'Afghanistan. Ces pays ont convenu hier lors d'un sommet extraordinaire au Pakistan de travailler avec l'ONU pour débloquer des centaines de millions de dollars d'avoirs afghans et créer un fonds de donation. Cette réunion est était la première grande conférence sur l'Afghanistan depuis la chute en août de l'ancien gouvernement soutenu par les États-Unis. Ce cri d'alarme du Secours catholique en France, l'association qui vient en aide aux plus démunis, indique dans son dernier rapport annuel sur la pauvreté que la pandémie de Covid-19 et le confinement ont contribué à dégrader le budget, l'alimentation et la santé des personnes les plus pauvres. Samuel Prieur, délégué départemental du Secours catholique Nord-Lille.
Ce ne sont pas juste des statistiques issues de recherches ou de livres, mais bien du terrain des 60 000 bénévoles qui agissent en France et qui ont recueilli cette année plus de 40 000 profils de personnes qui nous permettent aujourd'hui de dégager les réalités de la précarité en France et qui nous disent, première chose, c'est que la Covid, on s'en doutait un petit peu, mais aujourd'hui on en a un peu la preuve, aggrave des situations de précarité, notamment pour les personnes seules qui sont assez majoritaires dans l'accueil du Secours catholique et notamment les mères isolées qui aujourd'hui payent le prix. Elles sont 25% à arriver au secours. Ces familles monoparentales payent le prix de la précarité avec des charges qui augmentent, des difficultés de plus en plus importantes et une difficulté à faire face au quotidien. Et c'est ça qu'on rencontre tous les jours au Secours catholique.
Est-ce lié notamment au premier confinement ?
Oui, clairement, puisque les dépenses se sont resserrées. Les familles ont dû faire face d'abord à un isolement fort qui crée des conditions de vie très difficiles. L'entraide est une des moyens de s'en sortir pour les personnes en difficulté. L'entraide a été largement bousculée, voire empêchée par la Covid-19. Mais aujourd'hui, la difficulté, elle naît aussi dans l'augmentation de charges, notamment quand les familles ont dû faire face à l'arrêt des cantines scolaires qui sont souvent à des tarifs avantageux pour les personnes en précarité, et que nourrir les enfants chez eux devenait une difficulté du quotidien. Voilà, donc on a constaté cet appauvrissement, ces difficultés, et un enjeu de trouver les moyens de s'en sortir pour les familles. Et ça, c'est un constat qu'on fait, qui est de plus en plus difficile pour elles.
Et vous indiquez que 3 ménages interrogés sur 10 vous disent avoir subi une perte de revenus.
Oui, c'est ça. Et c'est plus une théorie qu'on pouvait dire quand on était en plein confinement, mais aujourd'hui, une réalité. Le revenu médian des personnes qu'on accueille a baissé. Il est bien en dessous du seuil de pauvreté qui est à 1102 euros. Les personnes qu'on accueille au Secours catholique sont à 537 euros de revenus mensuels. Et en plus, parmi toutes les personnes qu'on accueille, 22% de la part des ménages accueillis sont sans aucune ressource. Donc ça nous inquiète particulièrement.
Alors que beaucoup de ces personnes auraient droit à des ressources, et cette situation est ainsi aggravée par le non-recours aux aides ?
Oui, on le dénonçait très fortement l'année dernière dans le rapport précédent, 30% de non-recours. Cette année, on confirme ce chiffre, il est à peu près à 26%. Donc ça veut dire qu'on sait qu'entre 25% et 30% des personnes qu'on accueille au Secours catholique n'ont pas recours à des aides. Et ça, c'est vraiment très inquiétant, parce que ça veut dire que y a une vraie complexité pour les familles de comprendre, de connaître les droits dont elles ont accès. Et c'est une partie du recours à ces droits pourrait régler des problématiques de pauvreté. Et donc il y a un vrai enjeu à simplifier, à rendre l'accès automatique des droits aux personnes pour que une partie de la précarité elle puisse se résorber par elle-même, parce que c'est le cœur des droits. On parle trop souvent de la fraude aux aides sociales, mais on oublie que s'il y a un vrai coût économisé par l'État sur le non-recours aux aides sociales, et nous on l'affirme et on peut le démontrer par nos études, c'est 30%, c'est entre 25 et 30% des personnes qu'on accompagne.
Et ces aides devraient, selon vous, être fournies automatiquement ? Est-ce l'une des demandes que vous faites à l'approche de la présidentielle ?
À l'approche de la présidentielle et au-delà, puisque on a un peu décidé au Secours catholique que les échéances électorales étaient importantes, mais en même temps, c'est l'action au quotidien et le terrain qui nous importe, et ça veut dire que c'est à la fois demander aux candidats de s'engager, mais aussi à celui ou celle qui sera élu d'appliquer des enjeux. Et donc, on a fait le choix aussi de s'inscrire dans la durée au Secours catholique sur notre action et sur nos demandes pour que ce soit pas juste des promesses, mais des actes en vérité, Et donc, une partie de ces actes, c'est oui, c'est faire tout pour que le non-recours soit réduit au maximum pour les personnes, et se dire s'impliquer en tant qu'État dans la simplification, dans l'écoute. Et pour nous, ça passe par un truc très très simple, c'est permettre aux personnes qui sont en précarité de s'exprimer et d'accompagner les politiques publiques pour qu'elles répondent réellement aux besoins dont elles expriment. Ce n'est pas dans un bureau à Paris qu'on doit décider de la manière dont on aide les plus pauvres. C'est avec les plus pauvres, en lien avec les associations qui les accompagnent, qu'on doit pouvoir trouver des solutions ensemble.
Vous estimez que c'est une urgence, cette automaticité, le recours à ces aides, au-delà même peut-être d'un revenu universel, déjà le fait que les personnes qui ont droit à ces aides, les aient. C'est un élément fondamental aujourd'hui, et ce sont peut-être d'ailleurs les personnes qui n'y ont pas recours qui en ont le plus besoin.
Évidemment, et c'est celles qui sont le plus éloignées de l'informatique, puisque beaucoup de choses aujourd'hui est numérisée, qui n'ont pas forcément accès à la langue, ou ont des difficultés liées à l'illettrisme ou des situations comme ça qu'on rencontre, mais pas que, c'est aussi la charge administrative qui est parfois lourde et qui fait qu'on se décourage face à ça. Cette condition du non-recours, elle est aussi en lien avec, je dirais, quelque chose de plus global, qui sont comment on va réussir un jour en France à ce que les personnes en précarité aient des conditions d'existence dignes. C'est ça la revendication forte du Secours catholique, et ça passe notamment par le non-recours, mais on voit bien que beaucoup des situations et des problématiques qu'on porte sont d'abord liées à l'accès à un emploi décent. Donc comment on va faire en sorte que les plus éloignés du travail arrivent à accéder à un revenu qui n'est pas le revenu d'une aide, mais le revenu de leur force de travail. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des initiatives qu'on soutient très fortement, comme le territoire zéro chômeur ou d'autres enjeux de l'économie sociale et solidaire, pour que tous ceux qui à un moment ont décroché du travail pour X ou Y raison, y retrouvent goût, ils retrouvent le goût de vivre de leur travail, de retrouver des revenus qui sont liés à une action qui a une utilité pour eux et pour la société. Et ça, on sait que c'est une partie des enjeux. Mais ça passe aussi parce qu'il y a un sas où parfois on n'a pas accès au travail par quelque chose qui s'appellera et que nous, on nomme le revenu minimum garanti, qui est de permettre d'avoir un minimum de ressources pour que l'énergie que la personne en précarité donne soit dans cette recherche de l'emploi et pas dans cette survie permanente. C'est un travail à temps plein que de survivre quand on est en situation de précarité, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. Et donc si on veut que les personnes puissent trouver un travail décent, puissent se remettre dans des conditions de vie en société, etc., eh bien, ça passe certainement par un soutien beaucoup plus important en termes de revenus. Et ça, on revendique dès 18 ans.
Samuel Prieur, délégué départemental du Secours catholique Nord-Lille. L'Algérie a remporté samedi sa première Coupe arabe de football, une victoire des Fenech, 2-0 face à la Tunisie au terme des prolongations. Le tournoi s'est déroulé dans 6 des 8 stades qui accueilleront des matchs de la Coupe du Monde 2022. La finale samedi a eu lieu le jour de la fête nationale du Qatar et un an jour pour jour avant la finale du Monde. Mondiale. La victoire de l'Algérie a été fêtée dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, Lyon, Toulouse ou encore Nantes. Les célébrations ont parfois donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre. Le mondial d'handball, les Françaises ont perdu en finale face à la Norvège, 22-29. Après l'or olympique décroché cet été, les Bleus sont vice-championnes du monde. Le journaliste Elie Mazbounji, réélu à la tête de l'Association de la presse étrangère en France, regard sur les missions de cette association à l'approche de la présidentielle en France, Elie Mazbounji.
La nouveauté de mon mandat, de ce nouveau mandat, et l'importance proviennent de deux événements très importants. Le premier est la présidence française de l'Union européenne qui est prévue pour le début du semestre prochain, c'est-à-dire à partir de janvier. C'est un exercice pour nous et pour tous les journalistes difficile. Et en plus, l'Association de la presse étrangère a été chargée par la structure gouvernementale chargée de ces événements de donner un coup de main pour l'accueil des journalistes qui vont affluer par centaines, disent-ils, pour couvrir les événements qui vont se dérouler pendant ce semestre. Et sur tous les plans politiques, économiques, culturels et dans toute la France, disent-ils. Donc c'est une tâche difficile. C'est ce qui donne l'importance à ce nouveau mandat que je viens de recevoir durant notre Assemblée générale annuelle. Et deuxième élément, c'est que l'Association de la presse étrangère a commencé à inviter les candidats à la présidence de la République. Et nous allons donc avoir dans les prochaines semaines les candidats, l'un après l'autre, bien sûr, à des distances dépendantes de leur disponibilité, bien sûr, mais qui vont être interrogés, donc chacun séparément, bien sûr, par les journalistes représentés à notre association, c'est-à-dire des journalistes du monde entier. Chacun, je suppose, voulant poser une question sur la politique de la France à l'égard de son pays ou poser des questions sur l'Europe et sur les points chauds du monde. Donc voici deux éléments importants qui vont rendre ma présidence et celle de mon comité de 15 membres très, très chargée et semée d'embûches. Et mais j'espère que nous surmonterons tout cela grâce à la coopération de tous les membres du comité et aussi le soutien de tous les membres de l'association qui sont à peu près 200 et qui représentent les médias d'une soixantaine de pays dans le monde.
Vous l'avez souligné, c'est un mandat renouvelé dans un contexte politique particulier à l'approche de l'élection présidentielle puis des élections législatives. Quel est le regard porté à l'étranger et notamment dans le monde arabe sur la situation actuelle en France ?
Sur l'élection présidentielle, eh bien, ce n'est pas très clair parce que l'image en France même n'est pas claire pour les non-français. Même pour les Français qui chacun donne un avis partial, disons. Très peu de Français que je connais ont un avis vraiment, vraiment objectif sur cette question-là. Dans le monde arabe, il y a un manque d'informations. Je ne sais pas s'il faut imputer cela aux médias français, aux candidats eux-mêmes, ou un manque d'attention. Je pense les trois ensemble, puisque les événements qui se passent dans le monde arabe occupent tellement l'attention de l'opinion que les élections françaises viennent en deuxième position dans le classement de leurs intérêts. Mais il est entendu que la France, et par conséquent tous les événements qui se passent en France, ont une importance particulière dans tout le monde arabe. Et chacun pour des raisons politiques dues à l'ancienne période coloniale et d'autres dues à des nouveaux accords que le président Macron a signés avec un grand pays du Golfe, un autre pays, moitié, disons, les pieds dans les eaux du Golfe, l'Irak, et l'attention particulière qu'il porte au Liban, qui l'accompagne depuis le début de sa crise.
Eli Mazbounji, président réélu de l'Association de la presse étrangère en France, fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi 17. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Mehdi Ourahoui, essayiste, ancien porte-parole de Génération, émission présentée par Loïc Barrière. À midi 30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.